l'indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabag, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec ma consoeur Laurine Melka, professeure à Lille, à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission, c'est comme aller à la plage à Malmousque. Ça pique un peu, c'est souvent inconfortable, mais on passe finalement un bon moment. Bonjour Laurine, ravi de te retrouver.
Bonjour Étienne. Fin 2018, le mouvement des Gilets jaunes a occupé beaucoup de place dans l'actualité. Et en 2019, c'est toujours le cas. On ne peut pas ignorer ce fait social dans Splash. Il y aurait tant de choses à dire et à traiter à partir de ce mouvement. Il a fallu cependant faire des choix.
Effectivement. Et dans Splash, on a décidé de partir du ressenti exprimé par les manifestants. Ils ont le sentiment d'être déconsidérés par les élites et de vivre une profonde injustice entre eux d'un côté, qui vivent au quotidien les difficultés financières et toutes les restrictions qui vont avec, et de l'autre côté, les riches, qui semblent totalement indifférents au sort des plus pauvres, préservant leurs intérêts et vivant dans leur tour d'ivoire. Mais que sait-on réellement sur ces individus fortunés ? On les regarde avec parfois de la fascination sur leur mode de vie, mais quand même plus souvent avec de la méfiance. On les imagine très facilement arrogants, égoïstes, peu solidaires et peu généreux avec le reste de la population. Eh bien, posons-nous directement cette question et essayons de voir un peu ce que la science économique peut nous apprendre sur ces riches.
Bon alors, les riches sont-ils cupides ou généreux ?
Eh bien, la réponse est non, ils ne sont pas généreux. Voilà, fin de l'épisode, c'est terminé. Parce qu'en fait, on a des preuves concrètes que les riches sont quand même moins généreux que l'ensemble de la population.
Attention, si vous êtes riche, cet épisode pourrait heurter votre âme sensible. Veuillez garder à l'esprit que nous n'exposons ici que des faits scientifiques et uniquement des faits scientifiques.
Par exemple, les très riches sont les individus qui fraudent le plus les impôts. C'est ce que montre très clairement l'économiste Gabriel Zucman, que j'avais interrogé dans l'épisode 10 de Splash sur les paradis fiscaux. Juste un petit chiffre comme piqûre de rappel, dans un article de 2017, Gabriel Zucman estime que les 0,01% des Français les plus riches dissimuleraient, selon toute vraisemblance, 30 à 40% de leur richesse dans des paradis fiscaux.
Donc les plus gros fraudeurs de l'impôt et du système seraient les plus riches.
Et ce n'est pas tout. Plus on est riche, moins on donnerait d'argent à de bonnes œuvres. Par exemple, il y a une enquête de l'INSEE de 2008 qui s'est penchée sur les dons effectués par les Français à des organismes caritatifs. Et c'est vrai que les plus riches donnent des montants plus élevés, bon, en même temps c'est normal, leurs revenus sont plus hauts, mais ce qui est plus intéressant d'examiner, c'est de voir ce que ces dons représentent en proportion par rapport aux revenus de départ. Et là, surprise! Selon l'INSEE, les 25% des ménages les moins riches donnent 0,4% de leurs revenus disponibles. Okay. Alors que pour les 25% des plus riches, ils donnent seulement 0,22% de leurs revenus disponibles.
En gros, tu veux nous dire que plus on est riche, et plus la part du revenu distribué à des organismes caritatifs est faible.
Sans oublier des études américaines et néerlandaises qui montrent que plus on est riche, plus on est susceptible de ne pas respecter le code de la route. Bref, en économie, on dit que les riches ont un comportement moins pro-social, c'est-à-dire moins altruiste, moins coopératif, moins solidaire, moins tourné vers les autres et l'intérêt général.
Mais pourquoi est-il aussi méchant ?
On peut essayer d'établir quelques hypothèses. Premièrement, plus on devient riche, plus on devient matérialiste et on s'accroche à ses propriétés individuelles. Explication de type psychologique. Deuxièmement, être riche, c'est vivre dans un environnement et dans une culture qui, en France, au début du XXIe siècle, ne met pas en avant les valeurs de partage et de coopération. Là, c'est plutôt une explication sociologique.
Ou plutôt, ces valeurs de partage et de coopération existent, mais elles s'exercent dans un entre-soi. Ce que montrent les célèbres sociologues français Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Ils mènent des recherches auprès de la grande bourgeoisie pour comprendre leur comportement et comment leur environnement nourrit cette culture de club, et parfois un certain mépris social.
Voilà. On peut aussi penser à d'autres explications du type, troisièmement, les riches sont entourés de gens qui leur vendent des services payants pour gérer leur fortune et qui, eux, vont faire fructifier ce patrimoine ou avoir recours à des montages fiscaux très compliqués pour éviter de payer des impôts et qui vont décourager toute forme de coopération, car eux ont vraiment intérêt à ce que cette richesse reste très élevée. Quatrièmement, on peut aussi renverser la causalité. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils sont moins solidaires, c'est peut-être parce qu'ils sont moins solidaires qu'ils deviennent riches. Bref, on pourrait ajouter de nombreuses hypothèses différentes. Mais comment faire pour trancher entre toutes ces explications et savoir laquelle ou lesquelles sont les plus pertinentes ? Eh bien, les économistes vont avoir recours à une méthode un peu particulière. Au lieu de mener des interviews ou de faire des observations sur place, comme les sociologues, ils vont construire des expériences de laboratoire et soumettre des volontaires et des participants à des jeux, à des dispositifs pour comprendre comment les individus se comportent dans une situation contrôlée.
Ça, c'est extraordinaire, ça.
Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir.
On parle alors d'économie expérimentale ou d'économie comportementale, et c'est une branche de l'économie qui existe depuis une trentaine d'années. C'est comme si on observait le comportement humain au microscope. On compare les comportements de deux groupes d'individus soumis au même jeu, on change juste une variable entre les deux groupes et on voit ce que ça donne. À savoir si cette variable en particulier engendre un changement de comportement pour déterminer ou non de manière rigoureuse des causalités.
Et j'imagine que ces économistes expérimentateurs ont joué sur la variable richesse pour voir si ça induit des changements de comportement en termes de coopération, d'altruisme, etc.
Oh oui, et c'est même une question qui revient très souvent en économie comportementale. Comment les individus qui ont plus de ressources et plus de richesses se comportent par rapport aux autres joueurs qui ont moins de ressources ?
Et alors ?
Eh bien, on retrouve exactement tout ce qu'on a déjà dit. Les participants qui se retrouvent avec plus de ressources dans ces expériences de laboratoire sont moins coopératifs, moins solidaires, etc., etc. Bref, ils ont des comportements moins prosociaux. Mais récemment, disons depuis 10 ou 15 ans, on affine de plus en plus ces jeux et ces expériences, en jouant sur des variables très précises pour mieux comprendre pourquoi les riches auraient des comportements moins prosociaux, ce qui permet de tester les hypothèses qu'on a évoquées. Et les enseignements sont très intéressants, vous allez voir. Première expérience, par les économistes Michel Maréchal, Ernst Fehr et Alain Cohn. Ils décident de prendre comme joueurs uniquement des banquiers.
Tu veux dire des volontaires qui jouent le rôle de banquiers ou des banquiers-banquiers ?
Non, des vrais banquiers. Une grande banque a accepté de jouer le jeu et de mettre à disposition 128 de ses employés. Répartis en deux groupes, le premier groupe répond tout d'abord à une série de questions sur leurs loisirs, leurs passions, etc. Bref, des questions assez neutres. Tandis que les banquiers mis dans le deuxième groupe répondent à des questions qui portent uniquement sur leur métier de banquier. Et ensuite, tout le monde passe à la deuxième étape du jeu. Pour nous en parler un peu plus, j'ai rencontré Adam Zilberstein à Lyon dans un café. Il est économiste et il nous explique l'intérêt de cette démarche.
Et puis, le but de l'expérience, donc la tâche de chaque sujet, était de jouer au pile-face 10 fois. Et puis de rapporter le résultat de ce tirage. Donc chaque pile, supposons que chaque pile est égale, vaut 20 dollars, chaque phase vaut 0 dollars. Et votre reporting là n'est pas contrôlé. Donc vous avez toute la liberté de dire la vérité ou de mentir selon vos préférences. Et donc la question est tout d'abord, est-ce que les gens du secteur bancaire sont plus honnêtes que les autres ?
Eh bien, les résultats sont différents entre les deux groupes. Dans le premier groupe, quasiment tout le monde a été honnête. Et dans le deuxième ?
Parmi les embauchés du secteur bancaire, vous trouvez qu'ils ne se comportent pas comme s'ils étaient honnêtes. Donc il y a une déviation statistiquement significative vers les montants trop élevés. Donc si vous jouez pile face et vous êtes honnête, c'est très peu probable. C'est très peu probable que vous observez de tels résultats de ces tirages au sort.
Mais comment sait-on qu'ils ont fait statistiquement de fausses déclarations dans le deuxième groupe si on ne les a pas contrôlées ?
C'est très simple. À ton avis, si on joue plein de fois à pile ou face, quelle va être la probabilité moyenne de tomber sur pile ?
50%.
Eh bien, le deuxième groupe a en moyenne déclaré 58% de piles, ce qui est beaucoup trop par rapport à ce qu'ils auraient dû obtenir. Certains d'entre eux ont forcément menti. Ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est que tous les banquiers n'ont pas menti. Ceux du premier groupe ont déclaré 50% de piles en toute honnêteté. Ceux qui ont été malhonnêtes sont ceux qui ont répondu juste avant à une série de questions sur leur métier, comme si le rappel à leur métier de banquier les conduisait à devenir malhonnêtes. Conclusion de l'enquête, les diplômés du secteur bancaire ne sont pas en soi malhonnêtes, mais la culture professionnelle de ce secteur les amène à se conduire de manière malhonnête, à essayer de gagner de l'argent par tous les moyens, à prendre des risques, etc. etc.
Vous me prenez vraiment pour un con ?
Oui.
Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui.
On peut donc commencer à répondre à notre sujet. Des environnements professionnels spécifiques expliquent en partie les comportements antisociaux des plus riches.
Tout à fait. Mais continuons notre investigation. Deuxième expérience. Par Magda Haussmann, économiste à Londres en 2018. Le jeu des biens publics. Alors, dans ce jeu à plusieurs tours et 4 joueurs, on donne de l'argent au début de chaque tour et chaque joueur a la possibilité ou non de mettre une partie de cet argent dans une sorte de pot commun. Tout argent déposé dans ce pot commun est rapidement multiplié et sera ensuite redistribué à tous les joueurs.
Donc en gros, si vous mettez de l'argent dans ce pot commun, vous faites gagner plus tard de l'argent à tout le monde. En gros, vous la jouez collectif.
Voilà. Et c'est un jeu assez classique en économie expérimentale où on teste le niveau de contribution des individus au bien-être collectif. Et évidemment, on peut attribuer des sommes de départ différentes aux joueurs. Et encore une fois, on observe que les joueurs qui ont les montants les plus élevés au départ sont ceux qui contribuent le moins au pot commun. Sauf que Magda Haussmann a ajouté un petit grain de sable dans cette expérience. Je l'ai contactée par Skype et elle nous explique son expérience.
The way people gain wealth varies. So sometimes you inherit your wealth.
La façon dont les individus obtiennent leur richesse est variable. Parfois, vous héritez de votre richesse. Vous pouvez être chanceux et être né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ou vous pouvez être chanceux en jouant au loto, en gagnant une énorme somme d'argent. Ce sont des facteurs de chance. L'autre façon est de gagner sa richesse. Vous devenez un professionnel dans un secteur d'une certaine manière et vous êtes couronné de succès et vous gagnez un énorme montant de revenus. Nous étions intéressés par la possibilité d'imiter ça en laboratoire, c'est-à-dire dans la façon de répartir des statuts élevés parmi les joueurs. Soit selon la chance, en attribuant au hasard des positions aisées ou des positions inférieures, soit en leur demandant de faire un test, et ceux qui obtiennent de bons résultats se retrouvent avec une position mieux dotée, et ceux qui réussissent moins bien le test ont une position moins dotée. Et ensuite, on met en route le jeu des biens publics.
Donc si je résume, elle a mené deux expériences en fait. Une avec des joueurs qui ont plus d'argent au départ, mais ils ont été choisis de manière totalement aléatoire. Et une autre où les joueurs qui ont le plus d'argent sont ceux qui ont été les plus performants dans une épreuve précédente. Et donc on observe des différences de comportement entre ces deux types de joueurs.
Ceux qui sont faiblement dotés sont ceux qui, d'une manière générale, contribuent plus que n'importe quel autre joueur. C'est un résultat clairement systématique dans toutes les expériences que nous avons menées. Nous avons aussi trouvé que les individus davantage dotés ne sont pas coopératifs. Ceux qui gagnent par mérite leur dotation sont encore moins coopératifs. Voilà le résultat clé que nous pouvons faire ressortir de notre expérience.
Dans ce jeu, si vous êtes persuadé que vous méritez votre richesse par votre talent, par vos efforts, par vos compétences, alors vous êtes moins susceptible de contribuer à l'intérêt général.
Yeah, you feel more ownership
Vous vous sentez davantage propriétaire, vous avez ainsi un plus grand sens de responsabilité par rapport à ce que vous avez gagné. Donc, vous devenez bien plus protecteur. L'analyse des coûts et des bénéfices fait que vous pensez « Bon, l'intérêt pour moi est de préserver ce que j'ai, car je l'ai gagné, j'y suis attaché, je le mérite. » Ça limite les montants que les individus sont prêts à donner et donc ça limite toute forme de coopération.
Non mais c'est déprimant, Étienne.
Oui, mais c'est la science, Laurine. Ce jeu confirme donc une deuxième explication de comportement moins prosocial des riches. Ils sont d'autant plus attachés à leur richesse s'ils l'ont acquise par le travail et le mérite. Et on peut généraliser ce principe à l'aide d'une troisième expérience. Par Daniel Zizzo et Andrew Oswald, en 2001, il s'agit de l'expérience du « money burning ».
Tu traduis ça comment ? Expérience de brûlage de la monnaie ?
Ou, je sais pas, incinération de l'argent. Bref, l'expérience est assez simple, avec plusieurs joueurs et plusieurs tours. Et bien sûr, les dotations de départ sont différentes pour créer des inégalités. Certaines de ces dotations supplémentaires sont méritées, suite à un petit jeu où il faut montrer ses compétences. En revanche, d'autres dotations supplémentaires sont attribuées aléatoirement.
Comme l'expérience de Magda Osman. Certains joueurs sont plus riches par leur mérite et d'autres par leur chance.
Exactement. Et dans ce jeu-ci, les joueurs peuvent faire des investissements qui ont une certaine rentabilité et rapportent de l'argent. Sachant que si vous aviez plus au départ, ça vous rapporte d'autant plus. Bon, en gros, le système du jeu est fait pour accroître les inégalités. Et à la fin du jeu, on pose une question aux joueurs. On leur demande « Êtes-vous prêt à dépenser de l'argent, issu de ce que vous avez gagné pendant le jeu, pour brûler une partie de l'argent des autres joueurs ?»
Il y a vraiment que des économistes pour penser à des jeux et à des questions aussi tordues.
Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu vicieux. En gros, on demande aux gens « Voulez-vous payer pour que les autres, notamment les joueurs qui ont le plus de richesses, perdent une partie de l'argent ?» Et donc, si les gens répondent « Oui », ça veut dire qu'ils sont prêts à perdre de l'argent pour que les inégalités baissent. On écoute Adam Zilberstein.
Et puis la question est-ce que les gens sont prêts à payer pour changer la structure de l'inégalité dans le groupe, au sein du groupe ? Et la réponse est oui. Il y a cette volonté est très forte. Se manifeste très clairement. Et typiquement, ce sont les pauvres qui souhaitent à payer pour brûler l'argent de riches. Et en fait, ils montrent d'une manière économétrique, d'une manière statistique, que le montant ciblé, c'est ce gain aléatoire, donc quelque chose qui n'est pas mérité. C'est ce montant qui était attribué au PIF. Tant que c'est basé sur la performance, les gens acceptent. Mais tant que c'est complètement aléatoire, donc c'est injuste finalement.
Les gens, notamment les plus pauvres, sont donc prêts à dépenser de l'argent et donc à perdre leur propre richesse pour brûler, entre guillemets, l'argent des riches et plus particulièrement la part de l'argent des riches qui a été obtenue par chance au début du jeu. Donc les individus sont prêts à dépenser de l'argent pour mettre fin aux inégalités qui sont perçues comme injustes et non méritées. Et toutes les expériences de laboratoire sur ce thème montrent la très forte aversion des individus pour les inégalités injustes. Les gens détestent ça. Et ça, les riches le savent très bien. Ce qui confirme l'idée que les riches sont plus attachés à leur richesse gagnée grâce à leur travail qu'à leur richesse perçue sans y avoir mis des efforts pour vraiment le mériter.
Pour l'instant, Étienne, tu n'évoques que des expériences en laboratoire. Mais est-ce que c'est représentatif de la réalité ?
Eh bien, c'est tout le problème. En réalité, la plupart des participants à ces jeux sont souvent des étudiants. Les profs font simple, ils font participer les étudiants qu'ils connaissent et qui suivent leurs cours.
Ce qui me semble être le principal problème, c'est le fait de savoir que vous participez à une étude scientifique quand vous êtes dans le laboratoire. Alors, ce n'est pas toujours un problème. Par exemple, si vous analysez les enchères, ce n'est pas un problème de savoir que vous êtes étudié. Mais quand on mesure les préférences sociales, sans doute vous avez intérêt, en tant qu'étudiant, à vous comporter plus gentiment que ce que vous feriez dans le vrai monde. Parce que c'est votre professeur. Il regarde les choix que vous faites. Vous faites attention à votre réputation. Ça pourrait devenir sensible à l'avenir.
L'économiste néerlandais que vous venez d'entendre s'appelle Jan Stop, avec au doublage Charles de Silla. Et lui, ce qu'il aime faire, pour éviter ce problème, ce sont des expériences naturelles et non dans des laboratoires.
Initialement, nous avons commencé avec cette question. Et si nous menions une expérience sur les préférences sociales, dans lesquelles les individus ne savent pas qu'ils participent à une expérience, agiront-ils différemment? Et nous étions intéressés par les riches et les pauvres, car vous savez, pour les économistes, c'est important de mieux les connaître.
D'où la quatrième expérience. Jan Stop et ses collègues James Androni et Nikos Nikiforakis ont donc imaginé en 2017 un dispositif assez astucieux pour observer les comportements des riches et des pauvres sans qu'ils le sachent.
The experiment that we thought of was actually super easy and it involves envelopes. So what we had is we had a transparent envelope.
L'expérience à laquelle nous avons pensé est en fait très simple. Ça mobilise des enveloppes. Ce que nous avons, ce sont des enveloppes transparentes avec de l'argent à l'intérieur. Le texte de la carte était le suivant. Cher Jean, voici 5 euros pour toi. Signé, ton grand-père. Et il y a bien sûr un billet de 5 euros. Nous avons utilisé des enveloppes transparentes parce que... Enfin, elles sont un peu étranges. Qui enverrait de l'argent avec une enveloppe transparente? Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. On l'a choisi parce que l'argent est facile à repérer. L'astuce, c'est qu'on a une enveloppe dont le destinataire est quelqu'un nommé Jean et qu'on l'insère dans la boîte postale de quelqu'un. Mais, sur le devant de l'enveloppe, il y a la vraie adresse de Jean. C'est par ailleurs l'adresse de mon ancien logement étudiant. En tant que sujet, si vous recevez cette enveloppe, vous repérez que l'adresse n'est pas la bonne. Et ce que nous cherchions à produire, c'est que les gens se disent « Ah, le facteur s'est trompé, ce grand-père va envoyer de l'argent à son petit-fils. » Mais ça a finalement atterri dans ma boîte postale. Et la question est bien évidemment, qu'est-ce que je fais de cette enveloppe? Est-ce que je la renvoie? Oui ou non? C'est tout simplement la configuration de notre expérience. C'est très simple. Et l'avantage, c'est que nous avons une définition simple de ce que nous appelons comportement prosocial. Si vous renvoyez l'enveloppe, alors vous avez un comportement prosocial. Sinon, vous ne vous comportez pas prosocialement. C'est vraiment simple.
Donc ils ont fait semblant d'envoyer des enveloppes contenant de l'argent visible à de mauvaises adresses pour voir si les gens garderaient l'argent ou le retourneraient à la soi-disant bonne adresse.
C'est marrant, hein ? Alors pour être plus précis, ils ont envoyé 3 types d'enveloppes. Des enveloppes contenant 5 euros, des enveloppes contenant 20 euros ou des enveloppes contenant un bon de transfert, c'est une sorte de chèque aux Pays-Bas. Et si ce n'est pas à votre nom, vous ne pouvez pas encaisser l'argent. Et on regarde les différences de retour des enveloppes en fonction des 3 types d'enveloppes, et bien sûr, et c'est ça qui nous intéresse le plus, en fonction du niveau de richesse des individus. Car les enveloppes ont été déposées dans les boîtes mail de 180 ménages aux revenus modestes et de 180 ménages aux revenus très confortables.
Bah dis donc, je vois qu'on s'amuse bien quand on est économiste. Et la Poste alors, ils ont accepté de jouer le jeu?
Mieux que ça, les économistes ont carrément imité la Poste.
Par l'intermédiaire de certains de mes amis, j'ai mis la main sur des vêtements de facteur. J'avais la veste, le sac... J'avais même la cape. Quand je sortais dans la rue, j'étais de fait habillé comme un facteur. C'était un peu too much, je veux bien l'admettre.
Ce qui est très intéressant avec cette expérience, c'est qu'on teste une variable différente par rapport aux expériences précédentes. Là, les riches reçoivent de l'argent du ciel, qui ne leur est pas destiné. Donc on évite la variable « je mérite mon argent ». On évite aussi la variable « culture professionnelle », car les gens reçoivent ces enveloppes chez eux en dehors de tout contexte professionnel. Alors, question, dans ces conditions, est-ce que les riches persistent à avoir des comportements antisociaux en gardant l'argent au lieu de le rendre? Réponse de Jan Stoop.
The results really are two parts. And
les résultats se composent de deux parties. Premièrement, le comportement qu'on a pu observer, bien évidemment, on trouve de grandes différences de taux de renvoi. En résumé, les riches renvoient presque tout, et les pauvres ne renvoient quasiment rien. J'exagère peut-être un peu, mais laissez-moi vous expliquer un peu plus. Les enveloppes sans argent, liquides, les pauvres renvoient à peu près 50%, les riches presque 90%. Les enveloppes avec l'argent liquide, on constate que les pauvres renvoient environ 25%, c'est-à-dire la moitié par rapport aux enveloppes sans argent liquide. Et pour les riches, ça monte à 75%. Maintenant, ce que nous estimons intéressant ici, c'est que pour les deux classes sociales, si on augmente l'incitation à dérober en mettant plus d'argent dedans, ils répondent à l'incitation. Les individus volent plus d'argent s'il y en a plus dans l'enveloppe. Mais c'est plus prononcé pour les pauvres que pour les riches. Et l'une des possibilités, bien sûr, c'est que les pauvres ont plus besoin de cet argent que les riches.
Je sens que certains auditeurs ou auditrices sont un peu déçus et espéraient peut-être un peu plus de radinerie de la part des plus riches. Et en fait, non. Dans certaines conditions, les riches peuvent tout à fait avoir un comportement éthique et moral. Alors, rentrons un peu plus dans les détails de cette enquête, car il y a un deuxième élément très important à noter.
Si vous regardez dans le cycle d'un mois, alors, typiquement dans la dernière semaine du mois, les pauvres reçoivent leur salaire ou leurs allocations. Et ce que nous avions trouvé dans nos données, c'est que cette semaine, nous avions un cycle de 3 mois. Mais à chaque dernière semaine du mois, les pauvres renvoient plus d'enveloppes que la semaine d'après et que la semaine suivante. Le taux de renvoi est le plus faible la semaine juste avant d'être payé, quand la pression financière est la plus forte. Pour les riches, on n'observe aucune donnée de ce genre. Les taux de renvoi sont les mêmes tout au long du mois. Ça suggère une autre différence entre les riches et les pauvres. Quand on regarde les enveloppes contenant de l'argent, l'incitation n'est pas la même pour les riches que pour les pauvres, n'est-ce pas? 20 euros, c'est plus important pour quelqu'un qui est pauvre. Mais maintenant, on a des preuves que les pauvres souffrent davantage de stress que les riches.
On en revient à cette idée extrêmement basique. Ces sommes d'argent ont une utilité bien plus forte pour ceux et celles qui vivent dans la précarité, dans l'insécurité professionnelle, à devoir compter tous ces sous et à essayer d'éviter trop de restrictions pénibles à vivre.
Que conclure alors sur les riches selon ces trois auteurs?
Selon eux, en soi, les riches ne sont pas plus ou moins généreux que les autres. Le niveau d'altruisme des individus ne dépend pas intrinsèquement du niveau de richesse. Sauf que les plus riches vivent dans des contextes sociaux et professionnels qui les incitent davantage à adopter des comportements moins prosociaux. Et la façon de gagner leur richesse, par leur mérite ou non, joue également un rôle important.
Mais là, Étienne, tu es presque en train de défendre ou de disculper les comportements antisociaux des plus riches.
Alors, non, pas forcément. Cette expérience des enveloppes, elle est quand même très particulière. Il faudrait multiplier ce genre d'expérience pour accumuler des données et confirmer ce résultat. Mais en l'état actuel des connaissances économiques, avec toutes les prudences nécessaires, c'est la seule conclusion scientifique qui semble valable dans un premier temps. Et au fond, c'est presque rassurant. Ça prouve que la cohésion sociale est possible et que le fossé entre les plus riches et les plus pauvres n'est pas un problème psychologique ou moral. Non, c'est juste un problème social et donc on peut agir dessus.
Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare, rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission d'Étienne Tabaille, co-animée avec Laurine Melka, produite par Nouvelles Écoutes. Réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, monté et coordonné par Marine Rowe, mixé par Laurie Galligani. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendus dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes.